de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission de cinéma qui aime bien vous parler des films qui sont sur les écrans, mais pas seulement, ça peut être aussi n'importe quel écran et notamment les écrans de télévision ou d'ordinateur, Guillaume.
Oui, bah aujourd'hui je m'intéresse à un film en VOD qui est vraiment bien, qui aurait mérité un grand écran lui, qui s'appelle Americana.
Sophia nous parlera de Put Your Soul on Your Hand and Walk. Quant à moi, je vais vous parler de Classe Moyenne et d'une bataille après l'autre, le dernier film de Paul Thomas Anderson. Et nous aurons l'occasion de jouer un blind test aujourd'hui. Ce blind test est consacré à l'immense filmographie de Robert Redford qui nous a joué un sale coup, si je puis dire, hein, puisqu'on n'a pas pu faire ce blind test lors de la dernière émission, mais on se devait de rendre un hommage à ce grand acteur américain. Allez, on débute avec la lutte des classes dans le sud de la France. Nous parlons de Classe Moyenne.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Salut, trou du cul!
Une comédie qui sort des canons habituels de la comédie formatée à grands coups de Didier Bourdon ou de Christian Clavier fait son apparition sur les écrans, Classe Moyenne, réalisée par Anthony Cordier. Il s'agit d'une comédie noire qui oppose deux camps. Alors d'un côté, des grands bourgeois avec monsieur, avocat d'affaires, et puis madame, actrice au vieux succès, qui sont en vacances dans leur maison du sud de la France. De l'autre, des prolos dans la débrouille qui sont les gardiens de cette maison, la famille Azizi, incarnée par Laure Calamy, qui tente de ne pas trop en faire, et puis Ramzi Bedia qui en fait un peu.
Ah Philippe, installez-vous, faites comme chez vous.
Ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que justement il se trouve que cette maison est à moi et que vous ne payez pas de loyer.
Étant donné que vous nous employez depuis 7 ans au Black.
Pour incarner les bourgeois en vacances, l'excellent Laurent Lafitte, décidément acteur tout-terrain. Et puis la savoureuse Élodie Bouchèze. L'un donc est avocat, volontiers méprisant, condescendant à l'extrême, adepte de la cuisine avec évidemment des légumes bio. Et puis il a tout un tas de formules latines qui sortent à tout bout de champ. Ad libitum, in extenso, de facto sont clairement entrés dans son vocabulaire du quotidien. Sa femme est une actrice donc qui aimerait retrouver un nouveau souffle après qu'on lui renvoie toujours ses premiers succès où elle jouait nue. Alors c'est assez amusant parce que c'est un miroir de la trajectoire d'Élodie Bouchèze, justement. Alors ils ont une fille interprétée par Noé Habitat qui veut être actrice comme maman, mais sans le nom de maman. Un peu plus bas dans le hameau baigné par le soleil et les cigales, il y a la famille dont le rôle est de faire donc le gardiennage, laver les vitres, réparer la tuyauterie ou mettre un coup de peinture. Ils ont une fille dont le rôle va rester en suspens pendant longtemps avant de se révéler à la fin du film. À la faveur de dérangements inopportuns et d'un comportement grossier du personnage de Ramzi Bedia, cette famille ne va pas s'avouer vaincue. Alors au contraire, elle va demander une grosse somme d'argent pour quitter la maison dont il ne paie pas le loyer. C'est une histoire de gros sous qui s'engage. Alors au milieu de ces deux clans, les bourgeois et les prolos en mal d'argent, il y a Mehdi, sorti major de sa promotion d'avocat, issu d'un milieu prolo. Le voilà en vacances chez ses beaux-parents et au milieu d'une histoire qu'il dépasse. Lui qui n'est plus prolo, mais qui n'est pas encore bourgeois.
Que vous nous avez versé 800 euros par mois, soit bien moins qu'un SMIC. Du coup, on n'a pas pu cotiser pour la retraite.
Et non.
Donc, si on va devant un juge, ça pourrait vous coûter un redressement.
150 000.
Alors tous les personnages ont envie d'évoluer, il y a le couple de gardiens qui veut de l'argent, leur patron veut être reconnu comme méritant alors qu'il est issu d'une famille de bourgeois, sa femme veut un nouveau départ pour sa carrière et puis sa fille aimerait bien parvenir à pleurer pour de faux. C'est le béaba de l'actrice. Le jeune Mehdi, lui, fils d'immigré, a envie de changer tout simplement de milieu social. Alors il s'agit de réaliser un transfuge de classe, un thème qui est au cœur du premier film d'ailleurs du réalisateur, sauf qu'ici c'est le ton de la comédie qui est employé pour l'aborder, à la manière d'une comédie italienne des années 70, soit un mélange de satire sociale et puis des personnages quelque peu archétypaux. L'ensemble est plutôt bien écrit, avec des scènes plutôt réussies et des dialogues bien ciselés.
Donc vous croyez que vous pouvez nous congédier comme ça, comme des boniches ?
On vous a simplement demandé de faire votre travail. Après, si vous n'aviez pas envie d'être gardien, fallait y penser plus tôt.
Le seul bémol de cette comédie noire, c'est finalement le déséquilibre entre les deux camps. Le réalisateur nous place davantage dans la villa avec piscine, aux côtés des bourgeois, dont il surligne les comportements, que du côté de la maison des prolos, bien content d'avoir un spa portatif pour jouer à être un peu riche. C'est un geste de confort, alors scénaristique et puis visuel, car la villa d'architecte fournit des moyens au réalisateur d'organiser le récit et d'y placer ses protagonistes. Voilà, il y a quand même quelques bémols dans cette comédie noire. En revanche, le transfuge de classe, donc le jeune Mehdi, c'est peut-être le personnage le plus intéressant parce que quand on est entre deux mondes, eh bien on ne sait pas lequel choisir et lui, il est obligé de faire cette espèce de grand écart, de se faire bien voir par les bourgeois et puis aussi eh bien de s'accommoder avec les prolétaires. Et c'est assez intéressant, il y a quelques dialogues avec notamment Élodie Bouchet, ce qui lui donne des conseils en lui disant mais tu ne peux pas te comporter comme tu te comportes. Lui, pour entamer un repas, il dit bon appétit, mais en fait on lui dit mais non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est autre chose, enfin, tu dois absolument changer ton comportement si tu veux changer de classe. Voilà, ça c'est un des aspects intéressants de cette comédie, donc qui est plutôt drôle malgré tout, classe moyenne, et qui est en salle depuis le 24 septembre. Réponse en tant que cinéaste au massacre en cours des Palestiniens. Nous parlons de Put Your Soul on Your Hand and Walk.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Aujourd'hui, je vous parle avec émotion d'un film qui risque aussi de vous retourner. Un film qui s'immisce en dedans parce qu'il rassemble une réalité historique et une détresse personnelle sur les traits d'un seul visage, d'un regard calme. Put Your Soul on Your Hand and Walk est le dernier documentaire de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi, un film construit comme une correspondance numérique entre la cinéaste et une jeune photoreporter de Gaza, Fatma Assona, Fatem. Une conversation par écran interposée qui se transforme en témoignage, en main tendue, en archive d'une vie sous les bombes pendant presque un an. Le film a été présenté à Cannes dans la section acide et la projection a pris une dimension tragique et politique après la mort de Fatem, tuée avec toute sa famille par une frappe de missile israélien qui a ciblé son immeuble le 15 avril 2025, au lendemain de l'annonce de la sélection du film à Cannes.
Where are you now?
Gaza.
This is my neighborhood.
No one lives here or here or here.
Du côté du récit, le dispositif d'une simplicité apparente s'avère d'une puissance terrible. La réalisatrice filme son écran d'ordinateur, ses visios avec Fatem. On lit des photos, on entend des voix à distance, des phrases pas toujours terminées. Fatma, lumineuse, rieuse, entière dans sa façon de relater le quotidien décimé, raconte les immeubles tombés, les drones, les morts, et continue à sourire et à relativiser. Ces images, à elle, ces photographies, viennent ponctuer sa parole. Elles transforment l'écran en chambre noire, en lieu de mémoire. On ne peut rester insensible à la ténacité de cette jeune femme, sa force de vie. Elle qui photographiait Gaza pour documenter, elle qui distribuait des vivres malgré les bombes, la peur, la faim. Le dispositif a par ailleurs de quoi irriter de prime abord. La communication est sans cesse entrecoupée, latence, bug, les aléas d'une connexion difficile à maintenir sur le sol gazaoui. Peu à peu, les difficultés de cette communication créent une véritable matière discursive qui participe au récit. Avec moins d'immédiateté, chaque phrase qui parvient à passer outre les barricades de la bande de Gaza est en somme précieuse. Sur une année d'échange, peu à peu, la situation se dégrade, le sourire de Fatem se transforme, on y lit plus de fatigue et d'effritement qu'autre chose, et la réalisatrice, qui a elle aussi connu la guerre en Iran, se reconnaît en miroir dans le parcours de Fatem. Elle devient sa confidente et témoin, et lui offre un soutien psychologique par écran à distance. Le montage expose intelligemment ce basculement car le film ne se contente pas de montrer la destruction, il documente la résistance plastique et morale d'une jeune femme qui refuse l'effacement et il atteste de l'importance d'un regard externe pour valider l'expérience personnelle de cette injustice. Les séquences où Fatem évoque la dépression, mot qu'elle emploie presque comme diagnostic clinique, posent la question suivante. Comment nommer une douleur collective sans la réduire à une pathologie individuelle ?
Here, you can die by bombing or fear.
Avec le plus simple des dispositifs, la réalisatrice livre un film choc, dont le cadre est habité des yeux, d'un visage, qu'il est impossible d'oublier. Fatma Assona. C'était une jeune femme magnifique, comme toute sa fratrie d'ailleurs, une beauté rare, une intelligence vivace et une douceur qui transparaissent dans chaque plan. Et c'est peut-être cela le plus dur, savoir ce qui advient à Gaza n'est jamais conscientisé aussi vivement que face à un objet filmique, intime, qui devient testament. Constater qu'on efface un peuple dans toute sa richesse et qu'il ne reste plus personne de cette famille, ni de tant d'autres, voilà une perte dont je ne sais comment nous pourrons collectivement nous remettre. Si le film est frontalement politique, il n'en est en rien un tract. Son choix formel, la visio, le dialogue à distance, l'alternance image-parole, déconstruit l'idée que le documentaire doit tout montrer pour être légitime. Il prouve au contraire que la vérité peut surgir d'un échange, aussi fragile soit-il. Comment passer du sourire éclatant de Fatem à ce perfide des politiciens qui voient dans Gaza une aubaine immobilière, une riviera du Moyen-Orient, en utilisant l'effacement par l'image, la spéculation marchande autour du territoire palestinien, sur les ruines de son peuple. Alors oui, ce film active l'identification, la honte de s'identifier, l'impuissance, mais sous bien des formes, il existe des associations et collectifs qui tentent de remettre l'amour au centre. Solidarité concrète, écoute, atelier pour les déplacés, pour prolonger le travail du film sur le terrain et à distance. Alors pour terminer, ce film oblige. Il nous oblige à interroger le spectacle de la souffrance et considérer quelle action il appelle. Il n'offre pas de confort, mais une possibilité, celle d'écouter et d'agir, pour garder vivante la mémoire de Fatma Assona, chérir et préserver celles qui ont encore besoin de nous.
Ce documentaire est en salle depuis le 24 septembre. Les dérives extrémistes des États-Unis d'aujourd'hui. Nous parlons du dernier film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Après Sirat, voici encore un film de cette rentrée qui fait l'unanimité dans la presse et qui la fera aussi auprès du public. Le dernier film de Paul Thomas Anderson, le réalisateur surdoué, celui de Magnolia, There Will Be Blood, de Master ou Boogie Nights, est vraiment une merveille. En France, il s'intitule Une bataille après l'autre, comme aux États-Unis où l'action se déroule en deux temps. Alors il y a le passé, celui de la lutte. On suit un groupe d'activistes de gauche, ce qui est bien rare dans le cinéma américain. Les French 75. Il s'agit de faire trembler le patriarcal et suprémaciste blanc. Ce groupe est mené par une certaine Perfidia Beverly Hills qui met la forme à sa lutte en y plaçant une dose de sadisme à l'égard de ses opposants les plus repoussants. Quand elle rencontre le chef du camp que les militants attaquent, on est partagé entre le rire et la stupéfaction tant la violence du moment s'accorde avec la tension sexuelle et l'humiliation. Alors dans ce premier tiers de film, le combat politique, le désir de lutte se mêle au désir sexuel. On voit celui qui guide la meneuse avec Bob Ferguson, un Leonardo DiCaprio spécialisé en explosif qui semble un peu à rebours de sa compagne si explosive. Il y a une scène ahurissante où on la voit tirer à la mitraillette le ventre à l'air tandis qu'elle est quasiment à terme de sa grossesse. Elle semble regarder le présent quand lui voit déjà l'avenir, une famille. Mais la lutte est-elle conciliable avec une vie de famille ? Ils n'auront pas le temps de se poser la question.
On se retrouvera, c'est sûr.
Et je te manquerai pas ce coup-là.
Viva la révolution !
Pour avoir livré à la justice les miliciens qui se désignaient comme les French 75, nous décernons à Stephen Lockjaw la médaille d'honneur.
Oui, là, faut que tu comprennes que...
Ta mère et moi, on a foutu un sacré merdier dans le temps.
Nous voyons comment tout bascule, comment la soif de combat, de justice s'efface quand sa vie est en jeu. Il n'y a aucun angélisme de la lutte dans ce film qui est l'adaptation d'un roman de Thomas Pynchon intitulé Vinland. Anderson avait adapté l'auteur américain dans le barré Inherent Vice qui nous plongeait sous psychotrope dans les années 70. Et là, il s'agit d'une libre adaptation. Le réalisateur a conservé le fil narratif, un homme traqué par l'État, un groupe rebelle, la paranoïa des années Reagan, mais a déroulé une comédie d'action tendue et miroir d'une Amérique contemporaine.
tous les merdiers laissés par ta mère. D'épargner tout au merdier, même si je sais que c'est pas possible.
C'est qui, ça?
C'est juste des amis à moi.
Bon, et ça, là, c'est il, elle ou il, elle?
C'est quand même pas dur, on dit yel.
Je voudrais pas être impoli, ok?
Le film est conçu donc en deux parties, la partie où se joue l'activisme et la partie où les activistes sont traqués des années après, puisqu'il s'est écoulé 16 ans quand nous revoyons Bob, l'artificier, élever seul sa fille. Or, ce n'est pas un homme tranquille. Il cultive une certaine paranoïa incomprise de sa fille qui n'a jamais vécu la lutte. Il a un mauvais penchant pour les joints et l'alcool, ce qui nous vaut quelques scènes drôlatiques dans lesquelles il avoue ne pas se souvenir des codes contenus dans le manuel de la rébellion. On lui demande quelle heure est-il, il n'a pas la réponse et perd patience. Anderson fait durer la séquence, ce qui laisse toute l'attitude à DiCaprio pour la transcender en moment d'absurdité. Son problème à Bob, c'est qu'il a vu juste. Celui qui a été humilié par la mère de sa fille est à leur trousse, devenu le colonel Lockjaw, être tout en muscles et en tics, claudiquant légèrement et admirablement incarné par un Sean Penn qui fiche la frousse. Le soldat semble user des deniers de l'État pour accomplir sa besogne personnelle. Dans le même temps, on lui propose de faire partie du club des aventuriers de Noël, des suprémacistes blancs, bien sûr eux. Son compte est bon, c'est clairement le méchant du film. On imagine mal Bob lui faire faux bond et encore moins lui régler son compte. Tout est là. On obtient un film tendu, opposant la figure du mal à celle d'un père qui est à la recherche de sa fille, sentant confusément que son délire de fumette lui a joué des tours. Cette action se déroule dans une ville frontière entre les États-Unis et le Mexique, où Benicio del Toro est un prof de karaté prêt à sortir le fusil, capable d'héberger gratuitement des migrants et d'exfiltrer n'importe qui de cette ville qu'il connaît comme sa poche. Le point commun entre lui et Bob, bien chez les deux, il y a un tunnel pour filer en douce. Nous voyons donc notre Bob en robe de chambre, encore embrumé par la fumette, se mettre en quête de libérer sa fille. Ça lui prend un certain temps, mais comme le dit le titre, une bataille après l'autre.
Debout, le soleil brille.
Attendez, en ouvrant grand les yeux.
Bonjour.
Il n'y a pas d'aiguille sur l'horloge.
Pourquoi?
Parce qu'elles sont inutiles.
Quelle heure est-il?
Ah, putain. Écoutez, non, je me souviens plus de cette partie-là. Allez, on enchaîne. On n'est pas à un mot de passe près. C'est Bob Ferguson à l'appareil. J'ai fait partie des French 75.
Putain, je l'ai joué à la Tony Montana!
Steve Lockjaw vient de m'attaquer chez moi. Et j'arrive pas à me rappeler. Alors que la vie de mon unique enfant est en jeu, la réponse à votre question.
Vous auriez peut-être dû étudier un peu mieux le manuel de la rébellion.
Attendez, faut que je trouve ma fille.
Alors rappelez-nous quand vous aurez l'heure.
Hein? Mais non, vous...
Il y aurait beaucoup à dire sur ce film de Paul Thomas Anderson, dont on ne peut trop dévoiler l'intrigue. Le final est pleinement cinématographique avec une course-poursuite sur une route sinueuse et vallonnée faisant penser aux vagues de l'océan que le personnage de Benicio del Toro veut voir pour se calmer. Il y a matière à métaphore, il est beaucoup question de réseau, de trajectoire, de ligne avec ces deux camps et d'horizons perturbés. Les activistes de gauche avec leur cache, leur code, leur stratégie et le club fermé des réactionnaires qui se voit dans des caves ou des buildings, moyen de montrer comment la frontière est mince. Après Eddington d'Ari Aster cet été, autre long film sur l'Amérique, et bien Paul Thomas Anderson semble aussi lier le sort de l'Amérique à celui des armes. Ce film a été tourné en VistaVision, donc pellicule. Il bénéficie d'une image capturant autant les visages et attitudes que les espaces américains et d'une mise en scène fluide qui permet à ces 2h42 accordées au film de passer bien vite. Ce merveilleux film, Un combat après l'autre, est en salle depuis le 24 septembre. Nous entamons la partie jeu de cette émission. Il va falloir trouver des titres de la filmographie de Robert Redford.
Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma.
Cinérama.
Nous en parlerons tout à l'heure.
Robert Redford, c'est un grand nombre de films et c'est surtout donc, eh bien, un acteur américain qui est mort il y a quelques jours seulement et nous devions à Cinérama eh bien, lui rendre un petit hommage en jouant avec sa filmographie. Vous allez écouter 5 extraits de sa longue filmographie et il faut évidemment trouver le titre. Et eh bien, Guillaume, tu joues en studio. Premier extrait.
$1,000,000. Être à l'abri le restant de vos jours, pour une nuit. Ne répondez pas tout de suite. Réfléchissez. C'est sérieux?
La réponse est définitive.
Voilà qui résout le problème. Vous venez de me prouver que l'argent ne peut pas tout acheter. Il est tard, je suis navré, mais j'ai un rendez-vous de travail.
C'était facile.
C'était Proposition Indécente par le maître du thriller coquin Adrian Lyne.
Eh oui, film de 1993. Un couple en difficulté financière accepte l'offre d'un milliardaire. $1 million contre une nuit avec l'épouse qui est Demi Moore. Ce marché bouleverse leur amour, déclenche jalousie, doute et remise en question sur l'argent, la fidélité et la valeur des sentiments. 1,3 million d'entrées en France pour ce film. Très connu. Un autre film qui a conquis à peu près le même nombre de spectateurs en France.
Bishop a été évacué avec les derniers de son escadron. C'était le 30 avril, je crois. Ce qui m'avait donné le temps d'étudier son cas. J'avais discuté avec ses voisins, ses profs, son chef scout et sa mère. Le Pentagone m'avait fait parvenir le dossier de son père. Je pouvais commencer à déplacer les pièces sur l'échiquier. Mon plan était d'isoler et d'aliéner. J'avais fait en sorte que son commandant lui donne des fonctions subalternes avec des collègues qui ne parlaient pas sa langue et aucune date précise sur son retour au pays. Et moi, j'observais et j'attendais.
C'est trouvé.
C'est Spy Game de Tony Scott.
Eh oui, film de 2001, vétéran de la CIA reprend du service pour tenter de sauver un ancien collègue et ami qui, accusé d'espionnage, encourt la peine capitale. 1,4 million d'entrées pour ce film de Tony Scott que j'ai revu il n'y a pas longtemps et j'avoue que je suis plutôt Ridley que Tony quand il s'agit de regarder un film de Scott. Allez, troisième extrait de ce blind test.
Qu'ai-je dit de plaisant ?
Oh non, rien. Il y a tant de mois que je suis ici. Sans avoir entendu autre chose qu'un parler de sauvage, je n'ai plus l'habitude. C'était des corbeaux. Oui. Ici, c'est leur terre.
Oh, c'est le département du Colorado.
Oui.
Vous êtes amis avec eux ?
Les corbeaux ?
Hmm?
Qui vous a donné cette idée ?
Ma foi, les gens parlent dans la vallée.
Vous vivez ici, dans la montagne ? Effectivement.
Une chose importante. Connaissez-vous
Johnson,
la région ?
Connaissez-vous Feather Mesa ? Je connais, là.
Nous y avons des chariots, trois.
Oui.
En panne dans le gel et la neige.
Il faut les tirer d'affaire avant qu'ils meurent de froid. Faut que les Indiens les trouvent. Oui, il faut le faire.
C'est trouvé.
C'est Jeremiah Johnson, donc écrit par l'illustre Tom Milus, qui était le script doctor des années 70. Hein.
Mmh. Mais réalisé par Sidney Pollack, ouais. Film de 1972, la longue adaptation à la montagne et à la nature sauvage d'un citadin qui, lassé de la civilisation, part à vivre en solitaire au milieu de rocheuses. Hein, c'est pas nouveau. Hein. Maintenant, on fait des films plutôt avec des Parisiens qui vont à la campagne. Et bien là, c'était déjà fait dans les années 70. 1,2 million d'entrées en France pour ce film.
Ce qui est un peu triste, c'est qu'il est surtout connu aujourd'hui par le public jeune parce que c'est l'un des mèmes les plus célèbres d'Internet, avec un zoom lent sur la tête de Robert Redford.
Ah ouais. Alors, quatrième extrait de ce blind test, donc consacré à la filmographie de Robert Redford.
Nous devons lire tout ce qui est publié dans le monde. Et puis, nous mettons des petites cartes écrites en code ou dans un ordinateur, et l'ordinateur vérifie si c'est en accord avec les projets et les opérations de la CIA. Je cherche des fuites, des nouvelles idées. Nous lisons des romans, des nouvelles, des mémoires. Qui a inventé un boulot pareil ? Écoutez, il y a des gens qui veulent me tuer.
Qui ?
Je ne sais pas qui, mais il y a une raison.
C'est trouvé.
C'est les Trois Jours du Condor ?
Oui, encore Sidney Pollack, film de 1975. Très, très bon film. Missionné par la CIA pour mener des investigations, un employé se retrouve traqué après avoir découvert l'existence d'un dangereux réseau infiltré. 1,3 million d'entrées en France, encore une fois, pour ce film. Allez, dernier extrait de ce blind test.
Où en êtes-vous ?
Bloqué. Notre enquête ne donne aucun résultat.
Et vous pensiez que je vous aiderais ?
Je ne vous citerai jamais. Je ne vous citerai jamais, même comme source anonyme. Vous resterez en eau profonde. Vous pouvez me faire confiance, vous le savez.
Je vous écoute.
Pouvez-vous me dire ce que vous savez ?
Dites-moi d'abord ce que vous savez.
C'est trouvé, facile.
C'est les hommes du président.
Ah oui, comment ne pas le placer dans ce blind test, film de 1976 d'Alan G. Pakula, le combat acharné de deux journalistes en 72 pour faire éclater la vérité dans l'affaire du Watergate, malgré les pressions qu'il ne cesse d'avoir. 621 000 entrées en France, j'étais un peu surpris par le peu d'entrées en France pour ce film. J'ai évité tout un pan de la filmographie de Robert Redford avec...
dont le grand détournement de Michel Zadvicius.
Oui, évidemment. Oui, là, il y est pour rien. Mais je pensais plutôt à des films comme Out of Africa, enfin voilà, des films où il est question de sentiments.
Et au milieu coule une rivière, etc. Ouais. Ouais. Ouais.
Voilà, ainsi s'achève donc ce blind test. Une chasse effrénée a lieu entre plusieurs individus pour mettre la main sur une chemise amérindienne. Lakota d'une grande valeur, nous parlons d'Americana. Et donc, ce n'est pas un cocktail.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Ça, c'est clair.
Sidney Sweeney, hein, qui a récemment eu un succès controversé aux États-Unis et via une publicité en vantant ses bons gènes, est de retour dans un récit qui, justement, met en scène l'Amérique et son questionnement des origines avec un titre riche de sens. Alors, le terme Americana regroupe ce qui a trait à l'histoire, la géographie, le folklore et la culture des États-Unis d'Amérique. On l'utilise pour qualifier les objets considérés comme caractéristiques du peuple américain ou représentant particulièrement bien la culture américaine, souvent de manière stéréotypée. Alors l'image populaire du rêve américain joue un grand rôle dans la détermination de ce qui appartient ou non à l'Americana, et le concept d'Americana donc englobe aussi des lieux, des idées, des objets rétro et des personnages identifiés comme typiquement américains, hein, avec une nostalgie des petites villes, hein, entre 1880 et la Première Guerre mondiale, souvent vue comme le bon vieux temps. Alors cette nostalgie se nourrit du souvenir de la confiance en l'avenir qui émergea alors, notamment du fait de la fin de la conquête de l'Ouest. Alors, état d'esprit, identité, objet emblématique, nostalgie, hein, fin de l'Ouest face à la modernité, bingo.
I got a really dumb idea I'd like to run by you. I think something bad's going down.
Have a look at the newest addition to my humble little collection, the Lakota Indian Ghost Shirt.
C'est un euphémisme de dire que l'Amérique de 2025 est plus que jamais divisée. On n'a peut-être jamais autant parlé du rapport très ambigu avec ceux que l'on nomme les natifs ou plus prosaïquement les Indiens. D'abord effacés de l'histoire, ils ont été par la suite, à partir des années 50, au centre du remaniement du genre cinématographique américain par excellence, le western, en voyant leur portrait passer de méchant à celui bien plus réaliste de peuple opprimé et anéanti. Alors depuis, le western classique s'est lentement éteint pour devenir moderne, les voitures remplaçant les chevaux. Americana est littéralement l'un d'entre eux. Nous suivons plusieurs protagonistes qui vont s'entrecroiser pour mieux s'entrechoquer autour du vol d'une tunique fantôme d'Indien Lakota, un artefact très précieux et onéreux qui a lui-même une entité bicéphale puisqu'il a un lien avec Jésus-Christ. Alors une chose qui lie tous ces personnages est la façon dont ils semblent tous perdus dans ce monde moderne, autant dans le temps que dans leur identité, entre recherche d'authenticité et honte originelle. Ils vont essayer de comprendre ce qui les anime et de trouver un vrai foyer, même si celui-ci est par origine assez conflictuel. Alors le film, découpé en chapitres, s'ouvre d'ailleurs sur un enfant blanc qui se prend pour la réincarnation de Sitting Bull. Cette petite scénette que l'on aurait pu voir dans un film des frères Coen pourrait faire invariablement rire si elle n'était pas profondément tragique, et surtout si elle ne se concluait pas par la mort d'un homme frappé au cou par une flèche tirée par le petit, exactement comme l'influenceur Charlie Kirk qu'il y a de cela deux semaines. Alors le timing de la sortie du film chez nous rend donc ironiquement encore plus grave les thématiques soulevées par Americana, où chaque personne incarne littéralement deux facettes d'une Amérique perdue, ancienne, moderne, et qui se vend, mais qui cherche à survivre, surtout dans un monde digne de Samuel Beckett.
Est-ce que le film est aussi dynamique que la bande-annonce ?
Oui et non, oui. Il s'accélère. Mmh. Il y a des grosses poursuites, il y a des coups de feu. C'est assez lent et puis en fait ça monte. C'est vraiment comme un film des frères Coen quelque part. Mmh. Une bêtise en entraîne une autre et puis une autre et puis après tout le monde se tire dessus.
D'accord. Ce film, Americana, alors il n'est pas disponible dans les salles, inutile de vous déplacer pour cela. Il est disponible en VOD chez tous les fournisseurs de vidéos à la demande.
Mais c'est bien dommage que ce ne soit pas sur grand écran encore une fois parce que c'est un beau film, c'est bien filmé. Et justement, l'Americana sait rendre hommage à un certain paysage, il est assez magnifié et remis en question aussi à travers certains choix de cadrage dans le film.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine et tu auras deux films et dont une reprise.
Oui, je vais vous parler de l'adaptation de Marche ou Crève d'après Stephen King et puis la reprise improbable de Papy fait de la résistance.
Et puis moi, je vous parlerai de la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Un simple accident. À la semaine prochaine.